France Musique. Les grands entretiens, Anne Montaron, France Musique.
Je suis Edith Canachisi, je suis compositeur, académicienne, membre de l'Académie des Beaux-Arts. Je suis née le 26 mars 1950 à Lyon.
Edith Canachisi, vos études de composition au Conservatoire de Paris, elles ont duré combien de temps ?
3-4 ans,
c'est ça ?
Oui.
Et après, ça a été le saut dans l'inconnu ?
Alors, il faut dire qu'à l'époque, on était très aidé par Radio France.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y avait tous les mois un concert en création des étudiants en composition qui était diffusé en direct. Ça, c'était le service public. Et
ça fait rêver.
Ce qui fait que les gens qui étaient habitués, c'était un rendez-vous dans la semaine, je sais plus, c'était un mardi ou mercredi, je sais, mais c'était. Mm-hmm. Et ce qui fait que quand on sortait des classes, on avait déjà des enregistrements d'une part, et puis on n'était pas des inconnus, voilà.
C'est comme ça que votre musique, par exemple, Yel, a été présentée à la Tribune internationale
absolument.
Des compositeurs et l'a emportée d'ailleurs.
Absolument. Ouais. C'était tout de suite après à la fin de mes études, oui. Mm-hmm. Oui, c'était Charles Chêne, à cette époque-là, qui l'a présenté, oui.
Alors, Yel, justement, ça veut dire cri ou hurlement.
Oui.
On est souvent dans votre musique, Edith Canachisi, dans des jeux de plans sonores. Il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de mouvement, il y a de la danse, mais il y a des explosions aussi, il y a des cris aussi.
Oui, des explosions, bien sûr. Beaucoup de violence, oui.
Beaucoup de violence.
Surtout à cette époque-là, oui.
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 Une violence nécessaire à expulser.
À l'époque, oui, c'était nécessaire. Il y a beaucoup de violence, je dirais que ça s'est transformé en énergie maintenant.
L'orchestre, ça a été très vite un de vos
vraiment.
Territoires privilégiés d'expression. Les cordes, évidemment, puisque vous venez du violon.
Les cordes, les voix au sens de chœur, écriture pour chœur, écriture pour 12 voix, l'écriture pour chœur de femme, chœur d'homme.
Et ça vient de votre expérience personnelle, donc vous avez fait de la chorale, vous avez fait aussi, avez chanté, vous avez joué du violon, mais est-ce que vous avez joué dans des orchestres en tant que violoniste?
Oui, bien sûr. J'ai fait partie de l'orchestre Colonne pendant tout le temps de mes études au conservatoire. Je faisais des cachetons, j'étais pas à temps complet, bien sûr, mais je faisais des cachets au Théâtre du Châtelet avec l'orchestre Colonne, et j'ai appris énormément de choses. Notamment, on faisait beaucoup d'opérettes, d'opéras, et c'était très très intéressant, oui.
C'était quel chef à l'époque ?
Ah, ben c'était, c'était Pierre Dervaux.
Oui, c'est ça.
C'était Pierre Dervaux. Et il y avait aussi les concerts du dimanche matin, avec l'Orchestre Colonne. Donc ça, j'ai eu une expérience d'orchestre pendant 4 ans à peu près.
Donc le violon vous a accompagné à...
Alors
vous
le violon,
avez continué
après,
à le travailler.
Oui, bien sûr, j'ai même eu mon CA, j'ai passé le CA et je l'ai enseigné pendant 10 ans.
Cette expérience d'orchestre, alors ça À partir de quand vous avez décidé d'arrêter complètement et de passer, de vous consacrer à la composition ?
Quand je suis sortie des classes de composition, déjà, mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé en 86 la direction du conservatoire du 15e. J'avais passé le CAD directeur aussi. Et donc, c'est à ce moment-là, ça a été vraiment très, très difficile de continuer à jouer.
Vous ne pouviez pas envisager, Edith Kanachizi, de vous consacrer entièrement à la composition. Il fallait gagner votre vie et donc enseigner ou diriger un conservatoire.
Je pense que je voulais, là aussi, c'est une question de liberté et d'indépendance. Mmh. Je ne voulais pas dépendre de bourses, de... Et puis en plus, oui, c'est vraiment une question d'indépendance. Mmh. Ça a duré de 86 à 80, à 2000, pendant 15 ans. J'avais une espèce de vie complètement dichotomique, c'est-à-dire que je travaillais jusqu'à 4 heures de l'après-midi, parce que les cours commençaient à 4 heures. On ne pourrait plus faire ça maintenant administrativement, hein, ça c'est impossible. Et à 5 heures, j'arrivais au conservatoire jusqu'à 10 heures du soir, mais j'y restais jusqu'à la fermeture. Donc j'avais comme ça une double vie où j'ai pu continuer à écrire ce que j'avais à écrire. Donc je ne me suis jamais arrêtée.
Vie de labeur alors, hein, très organisée, et très
structurée. Ça, j'ai toujours beaucoup travaillé. Oui.
Très rigoureuse. Comme Thomas Mann, dès le matin à la table alors.
Oui,
pour écrire la musique.
Oui. Dès le matin. Non, je n'arrête pas. Et d'ailleurs, je n'aime pas arrêter parce que je pense que l'écriture m'empêche de... Disons que je me sens bien que quand je travaille. C'est comme Virginia Woolf. Hein. C'est entre deux livres, elle sombrait dans des dépressions épouvantables et elle ne se sentait bien que quand elle écrivait.
Le temps, c'est une notion fondamentale dans votre musique aussi.
Alors le temps aussi, ça j'ai un rapport au temps qui est sur lequel je me suis toujours beaucoup interrogée sur la fulgurance de l'idée musicale. Donc c'est quelque chose qui va très vite. Donc j'ai plein de cahiers d'esquisses, de graphiques sur lesquels je note l'idée. Et cette fulgurance de l'idée musicale, elle est complètement contradictoire avec le temps qu'on va mettre pour écrire l'œuvre. C'est-à-dire, comment conjurer cette contradiction qu'il y a entre la fulgurance et le temps. Et en ce sens, j'ai besoin d'écrire le plus vite possible et à flux tendu pour justement ne pas perdre cette fulgurance de l'idée première. Parce que si on met trop de temps... On perd l'énergie qui est contenue dans cette première... Je schématise, bien évidemment, parce que c'est pas toujours aussi simple ni aussi évident que ça. Mais il y a quelque chose de ça. Et nous tous, nous, compositeurs, on est un peu prisonniers entre ces deux aspects du temps. C'est pour ça qu'un peintre, il peut se permettre de... Voilà, un geste, deux gestes, trois gestes, ça y est, il est, parce que ça correspond à ce qu'il a envie de faire. Nous, on peut pas. Donc il faut restituer quelque chose d'autre pour garder l'énergie de l'écriture. Et pour ça, j'aime bien écrire à flux tendu, justement.
Il y a le temps, il y a le geste. Vous disiez tout à l'heure geste. Et le geste, il vient de votre pratique instrumentale, évidemment.
Le geste, il vient de ma pratique du violon, oui, ça, évidemment.
Et le violon, justement, on parlait du geste, Edith Kanachizi. Le violon, il est encore là, dans le bureau, dans l'espace de travail. Vous le prenez encore, vous en jouez encore?
Je le prends quand je veux tester des choses, mais maintenant j'ai plus besoin de tester grand chose puisque c'est vraiment un instrument que je connais très très bien.
Oui.
Mais quand on parlait du geste tout à l'heure, je crois que le geste musical il est incarné dans le geste de l'instrumentiste. Pour moi, quand j'écris un geste, je le sens physiquement. Dire, surtout dans le violon, il y a le geste de la main gauche, le geste de la main droite, ça pour moi c'est vraiment très très important. Ouais.
France Musique, les grands entretiens d'Edith Canadechizy.
La littérature est une source inépuisable pour vous, une source d'inspiration. Et je me suis aperçue, en reparcourant vos œuvres vocales, que Lorca est très présent.
Oui, Lorca est très présent, pas en relation avec l'Espagne, mais parce que c'est une poésie pour moi qui laisse l'espace à la musique. C'est une poésie extrêmement elliptique. Et essentiellement musical, un peu comme Emily Dickinson. C'est un peu le même sorte de poésie. C'est une poésie elliptique qui suggère beaucoup plus qu'elle va au bout de ce qu'elle voudrait dire. Ce qu'on a par exemple chez Philippe Jacotet. Philippe Jacotet, c'est vraiment une poésie achevée avec voilà, et qui finalement est très difficile à justement exploiter. Compte tenu du fait qu'on n'a pas beaucoup d'espace. Tandis que c'est chez ces deux poètes, chez Emily Dickinson et chez Lorca, voilà, ça laisse tout l'espace pour l'imaginaire. Et j'aime beaucoup justement travailler là-dessus. Et puis il y a ce rythme musical chez Lorca qui est justement la répétition, les redondances qui permettent justement d'inclure ça dans la musique.
Alors Lorca nous permet, et Emily Dickinson également, d'évoquer vos relations à la littérature. Tout à l'heure, j'ai cru comprendre, Edith Canadechizy, que vous avez couché sur le papier quelques poèmes à un moment donné.
Oui, 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 bien sûr.
Oui, c'était quand ça ?
Oh ben, c'était avant que j'écrive, que je me mette vraiment à écrire la musique, oui. Mmh. C'était avant, ça m'a beaucoup aidé, hein, des périodes difficiles d'écrire ça. Alors, effectivement, j'ai pensé souvent à reprendre ça, un peu comme certains compositeurs qui mènent parallèlement l'écriture et la musique, mais j'aurais pas le temps. J'ai pas le temps.
Il y a aussi Saint Jean de la Croix, qui est ce mystique espagnol, qui circule énormément dans votre œuvre.
Oui.
Oui.
Oui, Saint Jean de la Croix est un grand poète. Mmh. C'est un grand poète. Mais c'est d'ailleurs, je trouve que c'est le seul mystique qui ait pu rendre compte de son expérience de façon poétique. C'est-à-dire que c'est très rare qu'il y ait une adéquation vraiment entre cet ineffable, finalement, parce que l'expérience mystique est quelque chose d'ineffable, et la poétique. Thérèse d'Avila a écrit des poèmes qui sont très mauvais, très très mauvais. Beaucoup de carmélites ont écrit des poèmes qui sont très mauvais, mais Saint Jean de la Croix, c'est absolument merveilleux.
À un moment, puisque vous avez évoqué plusieurs fois cette époque de conversion, Edith Canadechizy, à un moment, la vie monacale vous intéressait beaucoup et a été même la source d'inspiration d'une œuvre.
Oui.
Oui.
Oui, oui. J'ai beaucoup été attirée par la vie monastique, beaucoup, et notamment par le Carmel. Je me suis rendu compte que la musique était plus importante pour moi, ou tout du moins que c'était une question de mode de vie.
Oui.
Mais je ne renie pas du tout ce passage-là. Et je pense que toute ma musique s'est enracinée dans ce substrat spirituel.
La poésie, c'est vraiment une source très importante dans vos... Pas uniquement dans les pièces vocales, d'ailleurs.
Oui. Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense, par exemple, à La ligne d'ombre, qui n'est pas, alors là, qui n'est pas une poésie, mais qui est une nouvelle de Joseph Conrad.
Donc là, il y a l'idée de tempête, de mouvement et d'immobilité en même temps.
Alors, La ligne d'ombre, c'est justement l'histoire d'un navire encalminé, donc avec pas un souffle, et la ligne d'ombre au loin. Parce que je connais quand même un petit peu la mer, c'est quand même très mauvais signe et on peut s'attendre à un grain. Donc, et là, c'était absolument impossible puisqu'il n'y avait pas de moteur, il n'y a pas d'à l'époque, etc. Et j'ai bâti toute ma pièce, qui n'est pas longue, hein, qui fait 8 minutes, sur cette dimension de l'attente, de la déflagration. Et cette attente, justement, là, on est dans la dimension du temps. Je me suis astreinte, justement, à traiter cette notion d'attente par des variations du tempo métronomique tout à fait progressives. C'est-à-dire que on change de tempo métronomique, par exemple, dans des tenues, de façon à ce qu'on ne se rende pas compte qu'on est en train de changer de tempo métronomique. Ce qui fait qu'on arrive insensiblement au tempo de la déflagration, qui effectivement est beaucoup plus rapide qu'au départ. Donc voilà, c'est une pièce sur cette dimension d'attente et sur cette dimension du temps.
Alors, il y a quelque chose de dramatique dans ce texte de Conrad. Le drame, la dramaturgie, est-ce que ça fait partie de votre musique? Parce que finalement, il y a quelques pièces scéniques, mais il n'y a pas d'opéra.
Ah, alors ça, c'est la grande question.
Est-ce que le théâtre vous intéresse, Edith?
C'est la grande question. Si, ça, c'est... il faut absolument que j'écrive un opéra.
Ça vous taraude?
Ah oui, ça me taraude. Ça me taraude, bien sûr.
La musique est déjà dans la tête? C'est le livret qui manque?
Non, pas du tout. C'est très difficile en ce moment. Hein. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait un sujet, on le soumettait, ou alors on vous passait commande en faisant confiance sur le livret. Maintenant, c'est plus ça du tout. C'est-à-dire qu'à la limite, c'est plutôt le directeur de théâtre qui va vous dire « Moi, j'aimerais bien un opéra sur tel sujet. » Donc, il faut... voilà. Mais non, ça m'intéresse beaucoup. C'est vraiment dans mes prochains projets. Mais je veux écrire un opéra grande forme, justement à cause du traitement d'orchestre, à cause de tout ça, parce que je me vois pas écrire un opéra de petite forme. Opéra de chambre, c'est pas mon propos.
Quelle est justement votre relation à la langue? La langue française, la langue anglaise. Il y a beaucoup de titres en anglais dans votre...
Oui, les titres, moi j'éprouve un plaisir très particulier à trouver un titre. Et j'aime, la plupart du temps, je trouve un titre avant. C'est-à-dire que j'ai une idée de ce que je veux faire, bien évidemment. Et c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que c'est le titre qui me donne l'idée de l'œuvre, l'idée de ce que je vais écrire.
C'est un matériau, alors?
C'est un matériau. Et c'est, quelquefois, j'aime des titres assez elliptiques, de façon à ce que ce soit un bel objet sonore, mais en même temps, qui contienne déjà ce qu'on va entendre. Et ça, pour moi, c'est un plaisir de travailler là-dessus. Par exemple, une de mes dernières pièces, qui est pour le trio polycorde, donc mandoline, harpe et guitare. Dans un premier temps, je me suis dit, si je trouvais ça très difficile comme ensemble, parce que je me suis dit, tout le mode de jeu de ces trois instruments est le même, à savoir l'attaque et la résonance. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de cloche. Traitement de la cloche, c'est l'attaque et la résonance.
Et souvent, Edith Kanachizi, les titres sont brefs.
Oui, justement, j'aime un bel objet sonore. J'aime que les titres soient brefs.
Et pourquoi l'anglais, ce recours à l'anglais? C'est une
parce
langue
que je
vous
trouve
est très
que l'anglais est beaucoup plus sonore et en même temps, c'est le propre de l'anglais, c'est de réunir justement la sonorité avec la signification. C'est-à-dire que nous, en français, il faut trois mots pour restituer la signification. Eux, en un mot, il y a tout. Il y a la sonorité et il y a en même temps la signification. Mm. Qui, d'ailleurs, la signification, qui va avec la sonorité. Par exemple, au signe de mes dernières pièces, c'est sparkle. Mm. Sparkle, c'est étincelant. Enfin, et ça dit tout de suite ce que ça veut dire, quoi. C'est oui. Donc j'aime beaucoup ça et c'est vraiment par amour de la sonorité et du bel objet que représente un titre. Alors ça peut être aussi un beau titre en français.
Oui.
Par exemple là j'ai pris pour une pièce pour justement pour Ensemble à Plectre. J'ai repris une phrase de Virginia Woolf qui comparait sa vie, la précarité de sa vie comme un nuage sur les vagues. Ah, ça, c'est un très beau titre aussi, comme un nuage sur les vagues.
Un extrait de Drift pour clarinette et orchestre avec Paul Meyer et l'Orchestre National de Lille dirigé par Roberto Rizzi-Brignoli pour suggérer le goût d'Edith Canaducci pour les titres brefs, véritables objets sonores. C'était le 4e épisode des Grands Entretiens de la compositrice réalisé par Marie Groux avec Valérie Lavalard et Bastien Varigo, Alexandra Bergel, Flora Sternadel et Aude Vassan. Suite et fin de ce portrait demain. À la même heure, podcast et réécoute sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.